Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les bâtiments, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Les avis de vacances, les postes sont nombreux sur Internet. D'autres sont affichés dans les vagues de certaines entreprises. Cependant, il est nécessaire d'exercer son œil et son esprit pour lire entre les lignes les offres d'emploi. Profil recherché, compétences requises, années d'expérience, etc. Le demandeur d'emploi est tenu à bien lire les offres car il y a des pièges dans certaines annonces. Certains sont pressés rapidement de répondre, mais comment arriver à décrypter correctement une offre d'emploi? Appelez-nous au 0811-800-963-94 pour participer. Nous recevons à présent M. Alain Poutou, expert en ressources humaines. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, comment décrypter correctement une offre d'emploi?
Merci beaucoup. Je vais commencer en disant ceci. La vie des vacances correspond à un certain nombre d'informations. Et la personne qui est en train de chercher de l'emploi ou qui se retrouve devant un avis des vacances doit faire beaucoup plus attention sur les contenus de l'avis de vacances. Il y a des informations très sensibles. Lorsque vous ne les maîtrisez pas, ça va vous induire à mal rédiger votre lettre de motivation. Il y a, par exemple, la première des choses pour que quelqu'un puisse faire une bonne analyse d'un avis de vacances, il doit d'abord comprendre quelle est la mission d'abord de l'organisation qui vient de lancer l'offre d'emploi. Je peux prendre un exemple concret. La radio Capi cherche un chargé de communication ou un journaliste. La personne qui est devant une telle offre d'emploi ou un tel avis de vacances doit d'abord comprendre quelle est la mission de la radio Capi. La radio Capi fait quoi exactement? Quels sont ses domaines d'intervention ou ses secteurs d'activité? Il y a des organisations comme Oxfam et quand même donne brièvement l'historique de l'organisation. La deuxième chose, la personne doit comprendre les exigences du poste. Qu'est-ce que le poste exige concrètement? Nous prenons les cas de travail sous pression, par exemple. On prend les cas de capacité à travailler dans un environnement multidisciplinaire. Nous prenons le cas de capacité à communiquer à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce sont des exigences où on vous demande d'étudier de ces postes aura la responsabilité de rédiger des rapports cohérents. Ces exigences-là, vous devez les comprendre. Et ensuite, il y a l'objectif du poste. C'est pour ça que nous disons, lorsque quelqu'un est devant l'offre d'emploi, doit avoir un bout de papier pour copier l'offre. Donc, l'objectif du poste. Et vous verrez que
certains, par exemple, ont pu télécharger ça sur Internet.
Oui, c'est important. C'est important. C'est très important.
Donc, il faut avoir une copie.
Il faut avoir la copie de l'avis des vacances. L'objectif du poste, parce que quand vous comprenez bien l'objectif du poste, ça vous permet de prendre ce même objectif du poste, l'insérer à votre troisième rubrique de votre CV actualisé. Parce que la troisième rubrique du CV actualisé correspond exactement à l'objectif du poste. En quatrième lieu, la personne qui se trouve devant un avis de vacances doit comprendre un peu la mission générale du poste. Sur le plan général, le poste exige quoi comme objectif général ou mission générale du poste. Il faut que la personne aussi note ça. C'est très important. Après la mission générale du poste, il y a les tâches spécifiques. Comme cinquième élément, les tâches spécifiques. Et c'est là que nous parlons du job description ou la description du poste. La personne doit lire tâche par tâche. Parce que c'est que nous voyons souvent quand les gens sont devant les offres d'emploi.
Oui, mais ça, sans vous couper la parole, les gens sont beaucoup plus attirés par les années d'expérience.
Ils
sont démoralisés, découragés.
Non, ça, c'est même pas un problème. Quand ils vont bien comprendre cette émission, je crois que beaucoup de gens qui vont mettre en pratique vont faire face à ça. Même les années d'expérience, là, on ouvre une parenthèse, il y a possibilité de s'échapper à ça. Si vous avez bien lu l'offre, vous avez bien analysé la vie des vacances, quand vous allez rédiger maintenant votre lettre de motivation, au quatrième paragraphe, vous avez possibilité de contourner ces 2 à 5 ans d'expérience. Après les tâches spécifiques du poste, il faut comprendre aussi ce qu'on appelle la référence du poste ou le code du poste. Parce que vous allez trouver dans chaque offre d'emploi, on met toujours la référence du poste.
Poste numéro 001-. Voilà. C'est okay. ça la référence.
Parce qu'on va vous demander de mettre cette référence sur l'enveloppe. Quand vous allez postuler, vous reprenez la référence sur l'enveloppe. Après la référence du poste, nous avons même les titres du poste. On demande qui ? Les titres du poste. Je donne un exemple, on cherche un logisticien. Il faut connaître les titres du poste. Après les titres du poste, le nombre de personnes à recruter. Le nombre de personnes à recruter. Il y a des postes où, pour un même poste, on a besoin de 2-3 magasiniers, 2-3 chauffeurs, 2 assistants aux finances. Mais si on cherche une seule personne, vous allez aussi comprendre que vous êtes dans une compétition. Donc, il est important de comprendre, de connaître le nombre de personnes qu'on veut recruter.
Ça veut dire qu'il faut aussi comprendre l'esprit même de cette annonce.
De la maison même. Après le nombre de personnes à recruter, la localisation du poste. La personne va aller travailler où ? La localisation du poste. Nous sommes ici à Kinshasa, le poste est basé à Goma. Donc, il faut comprendre aussi la localisation du poste. Après la localisation du poste, un autre élément important quand vous êtes devant un avis de vacances, c'est la localisation des candidats potentiels. La localisation des candidats potentiels. La personne qui doit postuler doit résider où ? Je prends, on cherche quelqu'un qui doit aller travailler, par exemple, à Kananga. Vous êtes ici à Kinshasa. La Radio Okapi a publié l'offre. Vous avez lu l'offre. L'offre vous intéresse. Mais vous êtes résidé à Kinshasa. Le poste, c'est à Kananga. Alors, il faut lire qu'est-ce que l'employeur a produit.
Est-ce qu'il a besoin d'un
quelqu'un
qui vient de Kinshasa ?
Il accepte que quelqu'un de Kinshasa postule aussi. Si il accepte, bon, quels sont ce que nous appelons les termes de référence ? Qui doit prendre en charge les déplacements pour aller passer les tests sur place à Kananga ? Est-ce que l'organisation a mis en place une possibilité de vous faire passer l'interview au téléphone ? Oui. Tout ça, c'est indiqué dans l'avis de vacances. Un autre élément très capital aussi, c'est que la date de la publication et la date de la clôture. On a publié l'offre quand ? La date de la publication et la date de la clôture. L'offre a été publiée quand et elle sera clôturée quand.
Tout ça, il faut bien
lire. Oui, il faut bien lire la date de la publication et la date de la clôture. Un autre élément capital dans la vie des vacances, la composition du dossier. On demande quoi ? La composition ou la constitution du dossier. Vous remarquerez que dans la plupart des offres d'emploi des organisations internationales, on demande une lettre de motivation qui explique pourquoi est-ce que le candidat désire postuler. On demande un CV actualisé et à jour avec la référence de 3 personnes à contacter. Ça, ce sont des éléments qu'il faut bien lire et retenir.
Copie de diplôme.
Copie de diplôme, copie des attestations de service rendus. Les autres même demandent les recommandations. Ça, par exemple, si vous avez travaillé quelque part, il faut que ces gens-là aussi puissent donner leur témoignage. Vous verrez avec le nouveau modèle du CV actualisé, ce n'est plus important que quelqu'un dise « je certifie sur mon honneur que
l'information sont juste vraies
oui. ». Oui, c'est plus important parce que les 3 références que vous devez mettre dans le CV, ce sont ces 3 références-là qui vont certifier les informations que vous venez de fournir. Donc, ce sont les éléments vraiment importants.
Il faut bien lire hein, avant de commencer à
lire. Bien lire. Mais il y a aussi, c'est tellement beaucoup, il y a beaucoup de demandes. Il y a même le profil même du poste. Le profil du poste, quelle qualification qu'on demande. Là, je vais même souligner un aspect.
Oui.
Il y a des offres lancées par UNICEF, par exemple, qui cherchent un assistant administratif ou un commis en administration. On demande que le titulaire de ce poste ait un diplôme d'État ou un baccalauréat. Mais vous êtes licencié, vous êtes gradué. Vous commettez l'imprudence de répondre à une telle candidature ou à une telle offre, vous signalez dans votre CV que vous êtes licencié. Il ne faut jamais vous attendre un jour qu'on va vous appeler. On cherche un diplômé d'État. Quelqu'un qui a un diplôme très élevé ne peut pas postuler dans de telles offres.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez dissimuler les informations en rapport avec la licence, vous dissimulez les informations en rapport avec les graduats. Vous laissez seulement le diplôme d'État et vous allez dans votre CV au 6e rubrique, vous renforcez les formations professionnelles. Mais vous êtes licencié. Donc ça vous permet d'entrer, vous commencez déjà à travailler.
Pour contourner.
Justement, il y a trop de réalités en ce qui concerne les recrutements et beaucoup de gens qui cherchent de l'emploi mais n'arrive pas à réunir les informations qu'il faut avant d'aller se présenter chez l'employeur. Oui. Donc, ce sont des éléments, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais depuis que j'ai commencé à postuler,
ça marche pas.
On m'a jamais appelé. Et c'est pour cela que je propose même prochainement, nous allons parler d'un point très capital sur comment faire les suivis de votre candidature qui n'a pas eu la réponse. Donc il faut qu'on dise aux gens, vous postulez, mais on vous a jamais répondu. Qu'est-ce qu'il faut faire de votre candidature.
Alors, vous avez des questions de préoccupation, composez le 081-890-6394.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
Comment décrypter correctement une offre d'emploi? Alain Poutou, dites-nous quels sont les pièges ou les pièges qui reviennent souvent dans les offres qui sont publiées.
Merci beaucoup. Le premier piège, c'est les exigences ou les termes de référence. Il y a dans la plupart des offres d'emploi l'aspect là du travail sous pression. Beaucoup de gens se posent la question, mais c'est quoi un travail sous pression? C'est quoi capacité à travailler indépendamment? Capacité à travailler en équipe? Ces exigences là, ça revient dans toutes les offres d'emploi. Il y a aussi l'aspect de années d'expérience. Vous savez, vous nous trouverez.
Ça, c'est ce qui décourage souvent les demandeurs d'emploi.
En principe, ça ne doit pas décourager les demandeurs d'emploi. Je vais expliquer. Le marché du travail, comme je l'ai dit actuellement, le marché est plus dominé par la présence des organisations internationales. Ces ONG travaillent selon les exigences du bailleur. Même chez vous ici, c'est difficile qu'on donne à quelqu'un un contrat d'une indéterminée parce qu'on dépend du bailleur de fonds. Alors, un bailleur qui vous finance, qui finance par exemple la Banque mondiale, qui finance Première Urgence, pour un projet de 3 mois ou de 6 mois. Mais la personne qui doit occuper les postes doit être quelqu'un qui a déjà travaillé quelque part. On va gagner du temps. Si on prend un profane, si on prend quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience, il faut encore mettre du temps pour le former. On doit le former et pendant qu'il faut faire des rapports intermédiaires au bailleur de fonds, qu'est-ce qu'on va expliquer au bailleur? Qu'on a pris 2 mois, 3 mois pour former, mais c'est jeudi qu'il vient d'entrer au poste. Raison pour laquelle il préfère que quelqu'un ait 2 à 5 ans d'expérience. Mais moi, je dis partout où je passe, je dis aux gens qui cherchent de l'emploi qu'il ne faut pas être intimidé devant de telles exigences.
5 ans d'expérience,
ce n'est même pas un problème. Moi, je vous dis que je me rappelle quand j'étais en 3e graduat, j'ai postulé dans une organisation internationale qui cherchait quelqu'un qui a 5 ans d'expérience et qui doit avoir une licence. Moi, je n'avais jamais travaillé, j'étais ni gradué ni licencié. Mais qu'est-ce qui fait qu'on m'a recruté? Il y a des problèmes, il faut bien lire l'offre. Ouais, on doit, moi, c'est de dire, la plupart des gens qui cherchent de l'emploi ne lisent pas correctement. Justement, quand il est devant une offre d'emploi, lui, il retient seulement les titres. On cherche qui? Et on va clôturer l'offre quand et quels sont les documents qu'il faut joindre. C'est tout où il part. Mais il ne cherche pas à comprendre les termes de référence. Et vous verrez parmi tant d'autres exigences que je viens de citer, il y a une technique que nous appelons le ciblage de l'offre. Vous pouvez mettre sur une liste, une feuille, toutes les exigences que l'employeur demande dans l'offre d'emploi. Mais à un moment donné, vous allez faire maintenant le tri. Vous triez maintenant parmi ces exigences. Vous soulignez les exigences clés. Quelles sont les exigences que l'employeur ne peut même pas laisser passer?
Parce que comment le savoir?
Oui, mais vous allez le lire. Vous allez le lire, vous saurez que, par exemple, je vais donner un exemple concret. On cherche quelqu'un, on dit avoir travaillé dans une ONG internationale est un atout. Même si moi j'étais dans une autre ONG au poste d'un magasinier, et qu'ici on cherche un assistant administratif dans une autre ONG internationale, moi j'ai déjà un atout. Pourquoi? Parce que les procédures ou le système est le même. Alors, vous faites une liste, vous séparez quelles sont les exigences que l'employeur ne peut pas tolérer, qui ne peut pas laisser passer. Quelles sont
oui, à l'impôtu, dans certains offres, on voit les candidatures, on écrit souvent des candidatures féminines, ils sont encouragées. Et ça, il faut tenir compte de ça également.
Bon, oui, il faut tenir compte, mais il reste à vérifier sur le terrain, est-ce que réellement on recrute les femmes ou on retient les candidatures féminines. Oui, ça c'est juste pour raison de parité.
Mais pour encourager aussi les femmes.
Pour encourager aussi les femmes à postuler, faire un peu la promotion du genre. Mais le problème, c'est quand on va vous lire, qu'est-ce que vous avez écrit? Est-ce que votre lettre de motivation a respecté les 5 paragraphes exigés par les employeurs? Est-ce que votre CV a respecté les 10 rubriques? Est-ce que ça a 3 pages telles que l'employeur a demandé? Il faut aussi souligner ça.
Bien. Avant de continuer, nous allons accueillir Alain Bouilly qui nous appelle de Lubumbashi dans la province du Katanga. Alain, bonjour.
Alors, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Alain.
Je salue d'abord l'invité, hein, monsieur Alain. Ok. Je voulais dire ceci.
Oui.
Il y a un problème d'expérience qui pose des problèmes, hein, pour nous, les gens qui veulent postuler. On vous demande 5 ans d'expérience. Et vous venez de terminer, vous avez la capacité de travailler sur ce poste que vous êtes en train de demander. Et vous vous retrouvez que vous êtes incapable à cause des années qu'on demande.
Oui.
Et puis il y a un problème de lettres de motivation. Je salue M. Alain parce qu'il y a un temps qu'on causé avec lui. Comment il peut aussi venir à Lumbashi pour former? Ça pose beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ne savent pas comment écrire une lettre de motivation. Il faut commencer par où? Il faut terminer par où? Parce que nous avons causé avec lui ici, il pouvait passer à Lumbashi et qu'il vienne nous former aussi de ça.
Bien, voilà, je crois qu'il a, il a entendu votre demande, Alain. Merci d'avoir appelé. Nous avons également en ligne Ilunga. Il nous appelle, il est également à Lubumbashi. Bonjour Ilunga.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais savoir, parmi les conditions qu'on nous pose quand nous allons postuler, par exemple, il y a, entre autres, la présentation des cartes pour les chômeurs, par exemple. Bon, ces derniers temps, j'ai remarqué que c'est partout qu'on pose cette condition-là. Donc, il faudrait absolument avoir une carte de chômeur. Bon, à supposer que moi, je postule quelque part et que je n'ai pas sur place la carte de chômeur, est-ce qu'on va retenir ma candidature ou bien il faudrait obligatoirement que j'ai d'avance cette carte-là de chômeur.
Merci, Ilunga. Alain Poutou.
Je réponds d'abord à M. Ilunga qui vient de poser la question en dernière position. Il a dit que généralement, dans les offres d'emploi, on demande la carte de l'ONEM. En ressources humaines, il y a ce qu'on appelle le recrutement.
L'ONEM, c'est l'Office national de l'emploi.
Oui, qui est notre partenaire. Il y a ce qu'on appelle le recrutement et la sélection. La loi prévoit que pour recruter un Congolais, il doit avoir présenté la carte des demandeurs d'emploi délivrée par l'ONEM. Ça nous permet exactement de faire la différence dans la gestion du personnel. Il y a ce qu'on appelle la gestion du personnel expatrié et le personnel local. Alors, avec la carte de l'ONEM, nous saurons faire la répartition. Qui est expatrié? Si c'est un expatrié, on va à la Commission nationale des emplois des étrangers, on lui prend la carte de travail pour étrangers. Mais si c'est un demandeur d'emploi, même la procédure est simple. Lorsque vous présentez la carte de l'ONEM, on vous recrute. Après vous avoir recruté, on part avec votre contrat à l'ONEM. L'ONEM va viser le contrat et il récupère la carte. Ça sert à quoi? Ça sert à établir les statistiques sur l'emploi. Et même la loi le dit clairement qu'on peut recruter quelqu'un qui n'a pas la carte de demandeur d'emploi, mais avant qu'il signe son contrat. Après les procédures, tout ce qui interviewe, les tests, une fois que la personne est retenue, on les retourne à l'ONEM pour qu'il aille chercher la carte avant de venir commencer le travail. Donc ça sert pour les statistiques. Mais quelqu'un, par exemple, qui travaille, ne peut pas détenir cette carte-là. Vous, par exemple, vous êtes ici à la radio, quand vous travaillez, vous voulez postuler pour dans une autre organisation. Vous ne pouvez pas présenter la carte et demander d'emploi. Parce que vous travaillez.
Oui. Alors, par rapport à la question d'Alain, depuis Lubumbashi, les années d'expérience, il dit qu'il est souvent découragé quand il se retrouve devant une offre qui exige 5 ans d'années d'expérience alors qu'il sort fraîchement de l'université.
Oui, j'ai dit à M. Alain que ça ne peut pas être un problème qui doit les déstabiliser. C'est-à-dire dans toutes les offres d'emploi, aucune offre que vous allez trouver, on ne demande pas l'expérience. C'est tout à fait normal. Mais j'ai toujours dit que personne n'est né avec l'expérience. Il y a une différence entre l'expérience et les compétences. Je crois avoir dit ça une fois dans la rédaction du nouveau modèle du CV qui doit avoir 10 rubriques. J'ai dit qu'au 4e rubrique du CV, il faut mettre les domaines de compétences, les savoir-faire. C'est à ce niveau-là que vous allez attirer l'attention de l'employeur. Vous lui dites par exemple que vous avez demandé 5 ans. Mais quand j'ai lu votre offre, j'ai lu l'avis de vacances, les profils que vous demandez, une telle tâche, moi je suis capable de le faire. Donc vous essayez un peu d'attirer l'attention de l'employeur par l'objectif que vous définissez dans votre CV.
c'est au quatrième paragraphe, là où vous allez parler sur les domaines des compétences. C'est à ce moment-là que l'employeur se dira, mais ok, cette personne n'a pas encore des années d'expérience qu'on demande. Mais il essaye un peu de nous dire que non, je suis capable de faire telle chose, les postes que vous venez de publier correspondent à mes attentes et aussi à ma compétence. Quand vous allez faire la lettre de motivation, au quatrième paragraphe, vous devez maintenant contourner cette exigence de 2 à 5 ans d'expérience. C'est comme ça que l'employeur va vous donner maintenant l'opportunité de se présenter, il va vous contacter, vous passez d'abord les tests, après les tests, il vous fait passer l'interview. Maintenant, vous allez apprendre les 17 techniques pour réussir l'interview. Vous essayez maintenant de lui convaincre, de lui montrer que ne tenez pas compte aux années d'expérience, Parmi tous ces gens-là que vous avez, qui ont postulé, la meilleure personne, c'est moi.
Bien. Les questions de préoccupation, à composer le 081-809-6394. Bien, nous poursuivons. Baptiste Cassé nous appelle de Kasséni dans la province orientale et Claude Tumungelo de Congolo. Baptiste, bonjour.
Bonjour à vous de la radio Capi, aux invités de la radio Capi et même à notre invité.
Oui, quelle est votre question, Baptiste?
Je voulais savoir, je pense ma question à notre invité de savoir quelle distance existe entre lettre de demande d'emploi et lettre de motivation.
Bien, merci Baptiste. Claude Tumungelo de Congolo, dans la province du Katanga, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Alain, et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Alors moi j'ai des petites préoccupations, je voulais juste poser à notre invité.
Oui.
Puisque, savez, ici nous sommes à l'intérieur du pays, et puis là où ça nous pose un peu de problèmes par rapport au recrutement. Vous allez voir, nous sommes en train de chercher des emplois à travers l'Internet, à travers les médias maintenant. Nous sommes en train de postuler, mais on n'a pas de formation. Bon. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on appelle un CV actualisé.
Et puis, la deuxième préoccupation, c'est par rapport aux lettres de motivation. Est-ce qu'une lettre de motivation a combien d'étapes pour rédiger cette lettre-là? Ce sont les deux préoccupations que je voulais juste poser.
Merci, Claude. Mais aujourd'hui, nous parlons particulièrement de comment arriver à décrypter correctement une offre d'emploi. Peut-être qu'Alain va répondre à cette question prochainement. Serge Lamoutou est à Kambove, au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute. Hein.
Je remercie d'abord votre invité. L'émission est vraiment intéressante.
Oui,
ma question est celle-ci. Je voudrais un peu savoir qu'est-ce qu'une lettre de motivation et comment la rédiger.
Voilà. Qu'est-ce qu'une lettre de motivation et comment la rédiger, Alain Poutou? Voilà, c'est des questions qui ne cadrent pas vraiment avec les thèmes d'aujourd'hui, mais elles préoccupent les auditeurs.
Exactement, mais c'est là où il y a un problème. Si vous voyez beaucoup de gens terminent des études et n'arrivent toujours pas à trouver de l'emploi, le problème, en fait, il y a incompréhension entre ceux qui cherchent et ceux qui connaissent. Il y a des gens qui veulent travailler, oui, bien sûr, mais ne savent pas sur comment attirer l'attention. Le marché est saturé pour le moment. Nous sommes dans une forte compétition. La personne doit faire preuve de certaines stratégies. Il y a ce qu'on appelle le miroir professionnel. Dans les techniques de recherche d'emploi, il y a une loi qu'on appelle la loi du miroir professionnel. C'est-à-dire que quelqu'un, avant d'aller postuler, il doit d'abord se mirer lui-même. Il regarde un peu les profils demandés par rapport au profil que moi j'ai. Est-ce que je suis capable de
répondre ou
je peux parler? Il y a des gens qui sont trop pressés. Il y a M. Serge qui a posé la question sur c'est quoi une lettre de motivation, ça doit avoir quelle étape. En fait, la lettre de motivation n'a pas d'étape, a plutôt les paragraphes, mais vu que ça va nous prendre beaucoup de temps, je ne saurais pas expliquer, on va chercher comment y résumer là-dessus.
Claude qui a parlé aussi,
il doit comprendre que la lettre de motivation, c'est une réponse. Quand l'offre est déjà publiée, on a affiché un avis de vacances, votre réponse, ça s'appelle la lettre de motivation, parce que là, l'offre est déjà connue. Mais tandis que demande d'emploi, l'offre n'existe pas. Vous partez demandez vous-même. Mais actuellement, dans des conférences que moi j'anime, je parle plus de demande d'emploi. Je parle plus ce qui est la lettre de vente de compétences professionnelles ou la lettre d'atterrissage forcé. Ça, c'est plus spécifique que demande d'emploi. Monsieur Claude a posé la question sur un CV actualisé, c'est quoi? Le CV actualisé, c'est un CV détaillé. On appelle ça le CV à jour. C'est-à-dire un CV que vous allez rédiger selon la philosophie de l'offre d'emploi. Il y a beaucoup de gens qui me téléphonent à chaque fois que je termine les émissions, même quand je ne suis pas ici, ils m'appellent. Non, écoutez, je vais faire une lettre de motivation. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que je dois écrire? Je leur réponds souvent qu'il n'y a pas un canevas pour la lettre de motivation. Si vous voulez que je vous oriente à rédiger une lettre de motivation, allez-y d'abord imprimer l'offre d'emploi pour laquelle vous voulez postuler.
C'est à
vous,
partir de
vous avez l'offre avec vous, essayez de lire l'offre. Moi, je vais comprendre la philosophie de la vie de vacances et je vous saurai qu'est-ce qu'il faut écrire. Parce que là, il y a des pièges que les employeurs tendent aux gens et comment les contourner. Parce qu'il y a une technique que je n'avais pas signalée, il y a un principe qui dit ceci. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est conforme au profil. Jamais ça n'existe pas de trouver quelqu'un qui est 100%
conforme au profil.
Ça n'existe pas.
Mais il y a moyen de se conformer au profil.
Justement, il y a des critères qu'on appelle possible, moins possible, à peu près rejeté. Alors, les gens doivent connaître ça. On va parler sur le CV prochainement.
Même après l'émission, vous pouvez donner votre numéro.
Il n'y a pas de problème.
Didier Barouane nous appelle de Calémy. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Didier.
Bonjour Alain, j'ai salué l'invité. Je suis vraiment très préoccupé avec les sujets du jour par rapport quand à nous venons de terminer les études. Maintenant, c'est à propos des lettres de motivation. Est-ce qu'une lettre de motivation peut contenir combien de paragraphes? Et ma deuxième préoccupation, c'est les lettres d'emploi. On dit souvent il y a 3 pages. Est-ce que comment quelqu'un qui veut les terminer peut contenir les 3 pages?
Voilà, merci à Didier Barouane de Calémy. Alain Poutou.
Oui, M. Didier vient de faire une petite confusion à la fin. Il a dit que la lettre de demande, souvent on demande 3 pages. Non, ce qu'on demande 3 pages, c'est le CV actualisé, qu'on appelle le CV à jour et le CV détaillé. Il doit varier entre 2 à 3 pages. Quand vous le faites moins de 2 pages, on va rejeter. Quand vous débordez aussi de 3 pages, on rejette. Et si vous allez au-delà de 10 rubriques, on rejette aussi. Et si vous avez moins de 10 rubriques, on rejette. Donc, c'est ça un peu que je veux dire. L'idée, il doit retenir, ce n'est pas la lettre de demande d'emploi qu'on demande de 3 pages, c'est plutôt le CV actualisé qui doit avoir 3 pages et avec 3 références de personnes à contacter. Il a posé encore la question sur la lettre de motivation. Il dit la lettre de motivation doit avoir combien de paragraphes au juste? Une lettre de motivation doit avoir 5 paragraphes. Et prochainement, je vais prendre le temps d'expliquer paragraphe par paragraphe qu'est-ce qu'il faut écrire.
Mais vous pouvez quand même lui communiquer votre numéro.
Oui, je vais donner à la fin à tous les auditeurs qui veulent
faire on est déjà à la fin.
Ah, d'accord. Ok. Les auditeurs peuvent me contacter au 09 98 17 21 43. 09 98 17 21 43.
Bien, 09 98 17 21 43. Pour être honnête, nous retenons une chose, lorsqu'on est devant une offre d'emploi, il ne faut pas être précis de répondre.
Il ne faut pas être précis. Quand vous allez lire l'offre d'emploi, prenez une feuille, prenez un stylo, de préférence que vous ayez le stylo avec 2 couleurs différentes. Quand vous allez rentrer...
Stylo bleu, stylo rouge.
Oui, quand vous allez rentrer, vous allez souligner les exigences que l'employeur ne peut pas laisser passer et les exigences qui peuvent être négociables. Et puis, il faut retenir aussi que si quelqu'un veut rédiger la lettre de motivation ou le CV, il doit avoir aussi la copie de l'offre sur la table à côté de lui. C'est-à-dire, il est en train d'adapter son CV par rapport à l'offre. Donc, il n'y a pas un canevas qu'on dit à quelqu'un, non, prenez ce modèle ici comme d'autres gens. Ils ont des CV, ils ont tiré seulement des photocopies. À chaque fois qu'il veut postuler, il introduit le même CV. Avec de tels comportements ou de telles techniques, on ne va jamais vous recruter. Donc, le marché de l'emploi est saturé. Les gens qui cherchent le travail doivent faire un effort de mettre en place certaines stratégies sur comment attirer l'employeur. Et l'employeur, dès qu'il vous appelle, il faut comprendre aussi comment réussir maintenant l'interview.
Bien, Alain Poutou, excellent ressources humaines, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.